Bonjour, ça marche ? Oui ? Bon, donc je suis journaliste. C'est mal. Je suis aussi prof, donc je me dis que ça rattrape un peu le coup. J'ai peut-être, je vais animer cette table ronde avec pas trop de manque de confiance en moi. Je m'appelle donc Louise Bartlett et je travaille pour une plateforme dédiée à l'éducation aux médias créée par des journalistes, mais qui inclut tous les acteurs. Cette plateforme mediaeducation.fr a été constituée au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo, dans les mois qui ont suivi, l'année qui a suivi.
Ça va ?
Pardon. Et donc, il rassemble des journalistes volontaires pour intervenir, qui sont effectivement invités, vous avez raison, qui n'essayent pas de prendre la place, ce serait franchement ridicule, je pense. Et vraiment, l'idée de la plateforme, c'est de faciliter la co-construction et le partenariat, la collaboration avec tous les acteurs dans leur grande diversité. Pour Média Éducation, j'interviens à la BPI, j'anime des ateliers avec des scolaires. Mais on en parlera peut-être un peu plus tard, c'est pas l'objet de cette rencontre-là, c'est juste pour dire qui je suis. Je vais surtout donc passer la parole à nos intervenantes. L'idée de cette table ronde, c'est qu'on se laisse une grande heure pour laisser les invités, les participantes, à raconter leurs expériences respectives avec l'éducation aux médias en bibliothèque. On a laissé ensuite une demi-heure d'échange avec vous, que vous puissiez intervenir, peut-être poser des questions, réagir, raconter vos propres expériences. L'objectif, là, même si on est sur une estrade et que vous êtes dans la salle, c'est vraiment d'essayer de partager au maximum. Donc, si il y a des moments où vous souhaitez poser une question, demander une précision, n'hésitez pas à le faire. Si on est un peu pris par le temps, on ne pourra peut-être pas laisser la parole tout le temps à tout le monde, mais on fera du mieux qu'on peut, en sachant qu'il y aura vraiment cette demi-heure, de midi à 12h30, pour que vous puissiez participer au maximum, j'espère. Voilà, ce préambule effectué. Si, en gros, l'idée là, de cette table ronde, c'est qu'est-ce que c'est que l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information en bibliothèque, quand, comment ça a été mis en place par les différentes structures qui sont représentées à cette table, qu'est-ce qui a été fait au préalable, comment ça se passe pendant et qu'est-ce qui est envisagé pour l'avenir. Donc c'est assez simple hein, comme trame. On va commencer donc déjà par, pour chacune des intervenantes ici, que j'ai malheureusement pas rencontrée en vrai, on s'est parlé au téléphone, mais je suis arrivée un peu tard pour me présenter à 9h, donc je ne connais pas encore vos visages et vos prénoms, je suis désolée. Comment chacune de vos structures respectives s'est mise à l'éducation aux médias et à l'information. Si, oui, en fait, je voulais demander dans un premier temps à Yolaine,
c'est je bon. Prononce. Ah, voilà. Je vais peut-être juste. Je m'installe.
Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc Yolaine Joanneau, moi je travaille pour la ville de Tremblay en France, voilà, dans le 93. Donc moi, je suis responsable du développement culturel en charge de la lecture publique et des enseignements artistiques. Et à ce titre, du coup, je chapeaute la médiathèque avec un collectif de direction. On a une organisation un petit peu particulière, collaborative. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet. La médiathèque a commencé à mettre en place des actions d'EMI en 2017. Ce qui est important de souligner, c'est qu'en fait, ces actions, elles s'inscrivaient dans une démarche qui était beaucoup plus globale, beaucoup plus vaste, puisqu'en fait, la municipalité a décidé de mettre en place un plan qu'elle a intitulé « Éducation aux images au numérique et analyse critique des médias », et qui devait du coup constituer un axe fort de la politique culturelle, mais qui a vraiment cette particularité d'avoir été pensé en transversalité et en interservice. Concrètement, en fait, la démarche est initiée par la direction de l'action culturelle et de l'éducation populaire, mais elle est vraiment coportée, copilotée par la direction de la jeunesse et la direction de la vie des quartiers, qui est la direction à Tremblay, qui en fait chapeaute les trois centres sociaux et qui, à ce titre, a vraiment pour mission de travailler sur les questions de parentalité. Donc, c'était pas anodin de faire ce choix. Puisque vraiment l'ambition était de proposer et de proposer sur la commune un vaste plan d'EMI avec un axe aussi éducation aux images et avec du coup une attention toute particulière accordée bon, évidemment aux adolescents mais aussi aux parents et plus largement aux adultes. Donc bon, les objectifs,
on y reviendra, c'était surtout. Donc quand c'était en 2017, est-ce qu'il y avait une raison précise pour laquelle vous vous êtes mis à l'éducation aux médias à l'info à ce moment-là?
C'était lié effectivement au fait que là on est dans une société où les flux d'informations sont constants, enfin et on est saturé d'informations. Et l'objectif, c'était de pouvoir... Enfin, on ne parle pas de l'objectif, apparemment. On pourra, mais...
Non, mais... Je ne veux pas être frustrante. Non. Tu peux en dire trois mots si tu veux maintenant. Là.
Non, mais du coup, pourquoi... Ce n'est pas lié, parce qu'effectivement, on avait la question de savoir si c'était lié particulièrement aux attentats Charlie Hebdo. Oui, bien sûr, ça a certainement contribué à ça, mais c'était une idée qui était déjà antérieure à 2015. Et vraiment, c'était... l'action, enfin, la direction de l'affaire culturelle est aussi à Tremblay, la direction de l'éducation populaire. Donc il y a aussi vraiment ce souhait de donner des outils aux habitants pour qu'ils puissent aiguiser leur esprit critique, être autonomes vis-à-vis des médias, qu'ils soient vraiment outillés. On est dans cette logique de capacitation qui est liée aussi à l'éducation populaire. Voilà, donc c'est ce lien avec ça.
Génial, merci beaucoup. Valérie Robin, à la BPI, c'était dans quel contexte aussi? Vous avez commencé comment l'éducation aux médias et à l'information?
Bonjour. Alors, peut-être là, pour le coup, à la BPI, ça a été vraiment à la suite des attentats de 2015. Il y a eu vraiment une volonté de service de la BPI de proposer un atelier qui allait s'appeler qui s'appelle encore Info Intox. Qui était vraiment un atelier qui se proposait de vraiment faire du décryptage d'informations et d'accompagner. C'est un dispositif, je reviendrai peut-être plus tard sur vraiment le dispositif, mais voilà, c'était un dispositif qui se proposait vraiment de partir de l'expérience et de comment pratiquent les jeunes sur le web, sur leur recherche d'informations. Et de partir de cette expérience-là, de les accompagner dans tout un processus.
Voilà.
Donc c'est vrai que ça a vraiment rebondi par rapport aux attentats, mais peut-être ce que je voulais quand même préciser, c'est qu'il me semble que l'EMI, même si on ne l'appelait pas EMI, me semble-t-il, fait partie de nos missions de base, ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure, et que peut-être ce qui a été... avec la mise en place de ces ateliers, peut-être que le déplacement s'est opéré pas tant donc sur ce travail de recherche d'informations, de sourcer, qui fait un peu partie de notre métier, mais peut-être que ça a été, on a opéré un déplacement dans la façon d'aborder ces questions, dans la posture de médiation qu'on a voulu mettre en place avec les jeunes.
Oui, parce que vous m'aviez dit quand on préparait la table ronde qu'à la BPI vous aviez l'ADN même de la structure, en fait, c'était l'accueil du public, c'est d'être inclusif. Donc vous aviez déjà ce rôle d'être à la rencontre des publics, de les aider à apprivoiser certains outils. Donc finalement, c'était peut-être assez naturel d'évoluer vers des ateliers ou pas.
En tout cas, alors, à la BPI, on a cette démarche. Le public de collégiens et lycéens envers qui on fait ces ateliers EMI n'est pas le public le plus naturel et le plus fréquentant de la BPI. On a plutôt des étudiants. Donc il y avait un enjeu. Alors on avait déjà développé un certain nombre d'actions avec ces publics, un certain nombre d'accueils pour leur faire goûter à cet établissement. Il y a vraiment un enjeu, comme vous le dites, du rôle social des bibliothèques. Donc il y avait la volonté aussi de pouvoir accueillir ces jeunes qui ne se sentent pas obligatoirement légitimes pour utiliser, fréquenter ce lieu, qui est la BPI, le centre Pompidou, etc. Donc il y a un double enjeu dans la mise en place de ces ateliers, qui est de les faire venir dans cet établissement, mais aussi d'être dans un autre rapport, dans une autre relation de médiation.
Ça marche, merci. Et Hélène, vous travaillez à la BPI auparavant et maintenant vous êtes à La Réunion, où vous avez en quelque sorte importé les ateliers Info Intox.
Pas en quelque sorte, complètement importé, oui. Oui, donc moi, effectivement, je travaillais à la BPI juste avant de partir à La Réunion. Donc, je suis arrivée à La Réunion en septembre 2017, donc c'est encore tout frais. Pour avoir un poste de responsable de la formation des usagers. Et effectivement, j'avais déjà cette idée dans un coin de ma tête que travailler autour des fake news, de la désinformation, pour des étudiants qui sont, comme on l'a dit, juste des lycéens qui ont un tout petit peu grandi, mais en fait qui sont encore très jeunes. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant vraiment d'importer à La Réunion ce format d'atelier.
Parce que vous êtes en bibliothèque universitaire là-bas.
Oui, je suis en bibliothèque universitaire, effectivement. Et puis ce qui m'a confortée aussi dans l'idée que ça pourrait être vraiment bien de mettre ça en place, c'est que on participe au C2I, enfin qui devient PIX donc maintenant, mais l'EBU de La Réunion forme les étudiants de L2 dans le cadre du C2I.
Est-ce que vous pouvez juste préciser ce que c'est?
Oui, certificat informatique et Internet, c'est des formations aux compétences informationnelles à l'ère du numérique. Et donc, il y avait 5 domaines et les bibliothèques, enfin, en tout cas nous, à La Réunion, on était invités à participer dans le cadre du domaine D4. Alors, je n'ai plus en tête exactement l'intitulé, mais enfin lié aux compétences, vraiment à la maîtrise de l'information. Donc, on forme les étudiants de L2 des UFR, enfin de l'UFR Lettres et Sciences Humaines à ce domaine D4. Et donc là, l'objectif, c'était de leur apprendre à comment chercher de l'information en ligne et comment, entre autres, hein, comment faire de la veille, enfin voilà, différentes choses, et comment vérifier l'information qu'on trouve sur Internet. Donc il y a un pan sur la fiabilité de l'information sur Internet. Et donc dans ce cadre-là, ce qu'on avait choisi de faire, enfin ce qu'on a fait encore cette année, c'était de leur proposer 2 sites à comparer, ivg.net et ivg.gouv.fr. Donc, pour ceux qui le connaissent, ivg.net est un site orienté, voilà, tenu par des militants anti-avortement. Et donc, ce qu'on voulait, c'était que les étudiants comparent pendant le TD ces 2 sites et nous disent lequel ou lesquels leur semblaient fiables. Et en fait, je me suis aperçue que beaucoup d'étudiants pensaient que les 2 sites étaient parfaitement dignes de confiance, voir que le site ivg.net était plus fiable que ivg.gouv.fr.
C'est embêtant.
Un petit peu. Donc là, je me suis dit, en voyant ça, que bah voilà, mon idée de développer les ateliers info-intox à l'université, effectivement, ça pouvait peut-être être utile.
D'accord. Et est-ce que vous aviez suivi des formations? Est-ce que vous avez eu accès ou décidez vous-même de vous former à l'éducation aux médias, à l'information, avant de mettre, enfin, j'imagine à la BPI, vous avez appris un peu par la pratique, mais est-ce que vous avez eu des formations spécifiques avant de mettre en place ces ateliers?
Alors non, d'autant qu'à la BPI, je n'ai pas moi-même participé à la mise en place des ateliers Info-Intox à la BPI, j'ai suivi ça de loin. Et non, j'ai pas été formée, donc je me suis auto-formée. Parce que c'est des questions qui m'intéressent, donc je
vous connaisse... êtes auto-formé comment? Par quel biais? Quelle source?
J'ai demandé à mes collègues de la BPI D'accord. de m'envoyer, ça a été essentiellement ça, de m'envoyer leurs documents de travail, en fait, pour ensuite les appliquer. Et c'est vrai que pour la première année, donc l'année dernière, hein, c'est, non même pas, cette année, 2018, comme c'était une première, j'ai vraiment pas tout à fait calqué ce qui se faisait à la BPI, mais quand même en grande partie. Je me suis dit, on va commencer par reprendre la trame existante et ensuite on verra ce qu'il faut ajuster. Mais pour m'auto-former, je connaissais des outils comme le Décodex du Monde. C'est vrai que je me suis pas... je connaissais le CLEMI, enfin voilà, je connaissais un certain nombre d'acteurs déjà, mais je n'ai pas suivi de formation en tant que telle. Ouais.
Et je vais demander à Valérie Robin maintenant si vous pouvez nous raconter justement comment, enfin, si vous avez été formée, si vous avez, avant de mettre en place ces ateliers, comment vous les avez construits, comment ça s'est passé en amont.
Alors, on n'a pas mis en place de formation a priori. Hein, les ateliers ont été mis en place en 2016. Il n'y a pas eu de formation a priori. On s'est beaucoup appuyé sur nos savoirs, nos connaissances, nos compétences aussi en accueil de groupe, hein, puisqu'on faisait des visites TPE, des accueils de groupe de façon. Général. Et c'est le même groupe hein, qui conduit ces ateliers depuis l'origine, avec des personnes qui se rajoutent, qui se retirent. Et donc, on a vraiment développé une veille. On a beaucoup d'échanges entre nous. Voilà, ça s'est plutôt construit comme ça, sur des échanges de la veille professionnelle, sur l'observation de ce qui se passait dans les ateliers, sur les évaluations que nous envoient les professeurs. Mmh. Voilà. Donc c'est une instance assez dans l'échange et dans le dialogue. Et depuis 2016, évidemment, l'atelier Info-Atox a vraiment évolué et a fait émerger quand même beaucoup de questionnements Et on est face à un environnement beaucoup plus complexe. Madame Fraumex l'a rappelé tout à l'heure. Et donc là, ça fait émerger vraiment des besoins de formation. Donc là, d'ici la fin de l'année, on va avoir deux formations. Une sur savoir déjouer les théories complotistes et une sur l'analyse de l'image. Et on a souhaité que ces formations aient une entrée aussi, enfin, pas uniquement théorique et sur le sujet, mais aussi sur les postures. Justement pour traiter ces questions-là avec des jeunes. Je pense qu'il y a vraiment aussi un enjeu pédagogique très important pour nous.
Oui. Et c'est là où on va... Je vais vous passer la parole après, puisque c'est intéressant aussi la collaboration avec les profs, justement, de savoir... en fait, grâce à vous, à votre contact, on apprend aussi.
J'espère.
Si, je vous assure que oui. Mais Yolaine, dans un premier temps, vous pouvez nous parler également de... Je crois que vous n'avez pas eu de formation spécifique pour la première année, mais là, vous êtes en train d'en mettre en place, c'est correct? Comment ça se passe?
Alors, du coup, bon, la première année, en fait, effectivement, il n'y avait pas de formation spécifique parce que l'ensemble des ateliers et rencontres étaient menés par notre responsable du secteur numérique de la médiathèque. Donc, c'est lui qui les menait exclusivement. Bon, lui avait déjà été formé, alors pas de manière très approfondie, mais avait quand même été formé à ces questions de MI et avait déjà, dans une vie intérieure, dans une collectivité antérieure, mené ce type d'atelier. Bon. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas dû le former en plus, mais il avait déjà cette expérience. Cette année, alors là, quand même, la grande différence, c'est que cette année, on a, ça ne va pas plaire à Madame Frao, ça, mais on a une journaliste en résidence. Voilà, c'est terrible, ces choses-là qui arrivent. Voilà, non, mais on a, pour le coup, vraiment, nous, la chance d'avoir donc Sylvie Fagnard, qui n'est pas encore là, mais qui ne va pas tarder à arriver, en résidence. Et donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de sa résidence, on a mis un volet formation. Parce que ça nous a semblé en fait vraiment indispensable que l'ensemble de l'équipe des bibliothécaires justement reçoive cette formation, mais aussi les autres acteurs éducatifs municipaux dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment les animateurs des centres de loisirs, services enfants, services jeunesse, et également des centres sociaux, parce que eux encore plus, on va dire que les collègues bibliothécaires sont confrontés au quotidien à des jeunes ou des moins jeunes, parce que je reviens rarement sur la notion d'adulte aussi, que c'est hyper important, qui véhiculent des théories complotistes, qui véhiculent des fake news, voilà. Et donc les collègues sont complètement désœuvrés, désemparés, puisqu'ils ne sont pas du tout outillés pour pouvoir déconstruire ces affirmations. Donc du coup, il nous a semblé vraiment primordial de faire ce volet sans formation. Donc cette année, la journaliste, donc Sylvie Fagnard, va faire la formation parce qu'elle est aussi formatrice, auprès de travailleurs sociaux, à la mairie de Paris. Voilà, c'est des choses qu'elle sait faire. Donc elle va effectivement dispenser une à deux journées de formation, dans un premier temps sur la déconstruction de la théorie du complot et sur les fake news et comment justement les identifier une vraie information d'une fausse. C'est comment du coup avoir des outils pour pouvoir répondre à nos usagers, aux habitants de la ville de Tremblay.
Et dans le milieu de l'éducation nationale, l'EMI figure de plus en plus dans les programmes. Est-ce que ça a été accompagné par des formations accrues, développées? Les profs doc, Madame Fraumex le mentionnait, ont une spécialité, une expertise dans le domaine, mais peut-être souhaiterait encore plus de formation, peut-être, oui, ce serait pas mal pour eux, je pense. Comment ça se passe pour vous en tant que prof? Parce qu'on a, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus d'exigences vis-à-vis des profs. Hein, vous devez pouvoir donner des cours d'anglais en primaire, faire de l'EMI au collège, enfin, il faut faire plein de choses. Est-ce que vous êtes accompagné pour ça? Et si oui, comment?
Alors, pour l'EMI, en tout cas, depuis, on l'a dit en début de matinée, hein, depuis 30 ans, on a la semaine de la presse et des médias dans l'école qui ponctue un peu, qui est un temps fort de l'éducation aux médias. Mais c'est vrai qu'en 2015, Najat Vallaud-Benkacem a tenu à remettre au centre des programmes l'éducation aux médias. Donc, c'est présent dans toutes les matières, mais personne n'est formé pour l'enseigner. Et ça n'est pas évalué, sauf, comme le disait Hélène, dans ce qu'on appelle maintenant le PIX. Là, je crois que c'est très nouveau. Donc, on n'est que dans l'évaluation.
C'est le fameux diplôme.
Le PIX, c'est ce qui remplace le C2I.
D'accord.
Donc, c'est une évolution du C2I.
Alors pour nous, ça apparaît comme une grille d'évaluation sans qu'il y ait un pendant de formation qui soit proposé aux élèves. Donc Oui, c'est présent dans toutes les matières, ça doit être enseigné, mais tout le monde se demande évidemment un peu comment. Les professeurs documentalistes sont probablement les plus experts, quoique moi je me mets, j'ai eu mon CAPES, donc première version, on l'a vu tout à l'heure dans la petite frise chronologique que vous proposiez. À la fin des années 90, les sciences de l'information et de la communication étaient une science émergente. Donc moi, ça ne faisait pas partie du tout de mon programme de CAPES. Donc on est uniquement dans l'auto-formation et on est quand même accompagné par le CLEMI, qui est l'organisme qui à la fois nous accompagne et peut proposer des formations. Donc pour nous, évidemment, la collaboration avec les bibliothécaires, la communauté d'idées aussi, la mise en commun pédagogique, est complètement fondamentale. Sans ça, on patauge dans la semoule, hein, quand même.
Et ça, c'est la prochaine question, c'est comment vous faites de l'éducation aux médias, alors ?
Alors, on fait de l'éducation aux médias. Alors, je vais prendre, pendant la semaine de la presse, je peux prendre comme mon exemple. Hein, je sais, on n'a pas de programme, donc on est libre de fonctionner comme on l'entend. Pendant la semaine de la presse et des médias, très souvent, les documentalistes proposent des ateliers clés en main. J'ai longtemps fait ça. On nous demande de, ça a été dit aussi dans l'exposé que vous avez fait, d'être dans la production. C'est en devenant producteur, donc on a l'habitude de faire des journaux aux élèves. Ça, c'est vraiment une très très ancienne habitude. Et depuis quelques années, il existe un dispositif qui s'appelle les classes médias. C'est une classe à option médias. Qui a 2 heures de cours en plus par semaine. On peut proposer ce dispositif de la 6e jusqu'à la classe de terminale. Il n'y a pas de moyens supplémentaires à injecter pour ça, il n'y a pas de profs supplémentaires, donc on s'organise avec une dotation horaire pour faire cela. Donc c'est le cas dans notre établissement, on a une 6e option média qui a 2 heures d'enseignement aux médias de l'information par semaine. Alors nous, on a décidé d'évoluer sur un programme assez simple. Premier trimestre, on va travailler sur la presse radio et puis on va faire des enregistrements d'émissions de radio. Au deuxième trimestre, on sera davantage sur la presse écrite avec, par exemple, la fabrication de une ou de journaux si on est un peu plus, si on a un peu plus de courage. Dernier trimestre, on travaillera sur l'éducation à l'image, notamment avec Topo, etc. Mais évidemment, on ne peut pas faire tout ce travail tout seul. Et c'est bien pour ça qu'on vient à la BPI profiter des ateliers qui nous sont proposés. Et donc, nous avons commencé par un premier atelier sur le métier de journaliste, ce qui nous semblait quand même une entrée en la matière assez intéressante, qui était donc animée par Luce Bartlett, qui est là.
Et donc, Valérie, vous pouvez nous raconter le dispositif, la manière, comment se déroulent les ateliers à la BPI, comment vous mettez ça en place, qu'est-ce que vous proposez aux scolaires qui viennent vous voir?
Alors, la présentation vraiment très, très fine, je vous invite à nous rejoindre sur le forum des initiatives. Hein, on pourra vraiment vous faire un déroulé des ateliers, quasi comme on le fait avec les classes. En tout cas, donc, l'atelier Info Intox, c'est un dispositif qui nécessite beaucoup de personnel. Hein, on est 3 à 4 bibliothécaires pour accueillir les classes. Parce que ce qui nous semblait justement important, c'est le dispositif que ça offre, cet atelier. L'idée, c'est vraiment de mettre les élèves en situation et ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner leur démarche. Donc, plus simplement, hein, on leur propose un certain nombre de sujets qui circulent sur le net. Donc des sujets comme les Illuminati chez les stars, enfin, les reptiliens, on n'a pas marché sur la lune, etc. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment on leur laisse la possibilité de faire leur recherche telle qu'ils la font quand ils sont entre pairs. Et c'est par petits groupes, donc on travaille avec eux en les aidant à décrypter là où ils sont, comment ils ont eu cette information, comment elle est sourcée, etc. Ce qui nous intéresse vraiment dans ce dispositif, c'est qu'on s'est aperçu que ça permet vraiment d'abord des échanges entre eux très très fructueux. Ça les met en situation vraiment de questionnement, c'est-à-dire on ne leur demande pas un exposé sur ce qu'ils ont fait, mais plutôt de se mettre dans une posture de journaliste, hein, de se poser le qui, quand, quoi ou pourquoi. Ce qu'on s'est aperçu aussi... Excusez-moi, je suis un peu émue, je perds mes moyens... Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que le fait que ça se passe dans un autre établissement que l'établissement scolaire, et ça, les enseignants en témoignent vraiment, on n'a pas d'a priori sur eux, et du coup, leur parole est très, très libre aussi. Il n'y a pas de tabou à dire qu'ils vont sur YouTube pour chercher une information, etc. On part vraiment de leur expertise, enfin, en tout cas, de ce qui, de leur connaissance des réseaux sociaux, et on ne met pas de barrière à cette expression. Il y a d'ailleurs un moment assez magique qui est la restitution à la fin. Donc l'atelier, il y a un temps de recherche donc par petits groupes avec les bibliothécaires, une prise de notes qui restitue leur démarche, et ensuite donc une restitution collective. Et la restitution porte vraiment sur comment ils ont procédé, ce qui amène d'ailleurs à des interventions contradictoires. Les enfants ne sont pas toujours d'accord. Ils ont quelquefois traité le même sujet et ils n'arrivent pas aux mêmes conclusions. Donc, ce qu'on essaie de pointer, voilà, c'est la démarche et c'est la difficulté à s'y retrouver dans tout ça. Et donc, par rapport à cet atelier Info Intox qui existe depuis septembre 2016, on sentait bien qu'il y avait des tas de questions qui émergeaient, y compris qu'on n'arrivait pas à contenir dans cet atelier, notamment la question de la pluralité des points de vue, puisque là on avait tendance du coup à avoir des positions un peu binaires, quoi. C'est vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est faux. Donc on voulait ramener un petit peu de complexité dans tout ça, pouvoir aborder les questions d'opinion, les questions de pluralité, voilà. Et donc on a proposé, on expérimente donc depuis septembre deux nouveaux modules, un qui s'appelle Construire son opinion et un qui est sur les métiers de journaliste. Ce qui nous a intéressé aussi dans l'atelier Construire son opinion, j'étais sensible à ce que disait Madame Fraumex à ce sujet, c'était la question aussi des stéréotypes. Enfin, on voudrait vraiment travailler aussi sur ces questions-là. Les jeunes et nous-mêmes, on a souvent des idées a priori, ce qui nous donne une force aussi pour essayer de convaincre, argumenter. Mais du coup, il faut aussi qu'on puisse se confronter à d'autres points de vue, à d'autres paroles, et à voir comment on peut argumenter.
Oui, et distinguer ce qui est son opinion de ce qu'est une information. Enfin, c'est ce que je vois dans les ateliers qu'on anime. C'est finalement, enfin, c'est riche, c'est intéressant, et c'est pas si difficile, j'ai l'impression, finalement, de faire un travail de réflexion ensemble sur ça, c'est ce que tu penses, et c'est ton opinion, et ça se respecte, mais c'est pas parce que tu le penses que c'est forcément vrai, et de pouvoir apprendre à s'écouter les uns les autres sans être forcément d'accord. On n'est pas obligé de convaincre les gens en face, c'est pas du vrai contre du faux. Et j'ai eu l'impression souvent dans les ateliers que juste réussir à réintroduire cette notion d'opinion, c'est quand même, et donc d'écouter les opinions, parce que j'ai l'impression que ça joue énormément. À partir du moment où on écoute les opinions des personnes qu'on voit et qu'on les reconnaît comme telles, ça permet de distinguer un peu mieux la grosse information qui fait qu'on aurait raison vis-à-vis de tout le monde, quoi.
J'aurais peut-être voulu compléter le besoin qu'on a ressenti aussi, c'était d'élargir nos compétences et aussi de partager et de travailler avec d'autres professionnels, hein, puisque Info Intox donc était porté par les bibliothécaires avec donc les enseignants, et donc l'idée aussi, ces deux nouveaux modules, Construire son opinion et le métier de journaliste, ont vraiment été co-construits avec donc les journalistes de Média Éducation et avec des journalistes de la revue Topo. Ce qui nous a permis aussi de consolider certaines connaissances, mais aussi d'avoir, nous semble-t-il, une offre plus... Enfin, en tout cas, pour les enfants, il nous semble qu'il y a du coup une proposition plus large, avec des points de vue plus larges aussi.
Et Hélène, pour rester peut-être dans le lien avec ce que vous avez amené à la réunion de votre expérience à la BPI, vous avez mis quoi en place cette année, ce qui vient de passer, comment vous avez fait de l'éducation aux médias et à l'information ces derniers mois?
Donc nous, le premier atelier, il a eu lieu en mai dernier, donc c'est tout frais. On a suivi à peu près la même trame que ce qu'expliquait Valérie, mais en ajoutant un volet outils. On a essayé de leur apporter des outils faciles à utiliser au quotidien pour vérifier l'information. Donc, par exemple, le Décodex du Monde, Oxbuster. Il y a une BD aussi, Fred se méfie des fausses infos. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui a été faite par un groupe de vérificateurs, si on peut dire, de l'information brésilien, et traduite ensuite en français. Enfin, voilà, on a essayé de leur apporter aussi des outils pratiques pour... pour au quotidien pouvoir vérifier, enfin avoir une démarche de vérification systématique de l'information.
Est-ce qu'ils ont l'air intéressés de découvrir ces outils-là ? Est-ce que ça, vous avez l'impression qu'ils vont avoir envie de s'en resservir ?
Oui,
ou pas ?
oui, j'ai l'impression. Décodex, par exemple, ouais, ça avait l'air de bien les intéresser, mais à chaque fois qu'on leur présentait un outil, on essayait quand même de leur dire... ne prenez pas non plus cet outil et ce qui en ressort comme argent comptant. Le Décodex, par exemple, c'est aussi critiqué, voilà, parce que c'est un outil développé par des journalistes et il y a plusieurs, enfin d'autres, donc par des journalistes du Monde en l'occurrence, et d'autres journaux ont critiqué le fait que de quel droit les journalistes du Monde s'autorise à dire si telle ou telle information, tel ou tel site est fiable ou pas. La question derrière, c'est est-ce qu'on peut être à la fois jugé parti ? Et là, c'est vraiment la question qui se pose. Pour autant, moi, je trouve que c'est un outil quand même intéressant. Donc, on leur présente, mais en essayant quand même d'attirer leur attention sur le fait que c'est pas parce que c'est fait par des journalistes que c'est la vérité absolue. Voilà. Donc, en gros, on essaye de leur dire, sans être parano, qu'il faut douter quand même de tout, et en tout cas se poser systématiquement les bonnes questions, quelle que soit la source.
Ce qui fait a priori partie du métier de journaliste, hein, de se poser des questions et de douter. Ouais. C'est malheureux qu'il y ait des expériences pas très positives entre des personnes qui ont rencontré des journalistes. Moi, j'ai entendu parler de maltraitance médiatique, j'ai trouvé que c'était extrêmement parlant comme expression. Je ne veux pas chercher à redorer le blason du métier, mais on se pose également la question en tant que journaliste des dérives de certains médias, et c'est important, je pense, que ce ne soit pas nous contre vous, eux contre nous, etc., mais que ce soit vraiment un travail où on s'enrichit les uns les autres à se poser des questions.
On insistait aussi sur le fait de ne pas se tromper entre, de ne pas confondre fake news et information erronée. La fake news, sa caractéristique première, c'est que c'est une information délibérément tronquée. Et qu'un journaliste peut, par erreur aussi, diffuser une mauvaise information pour plein de raisons, mais sans avoir la volonté de tromper son lecteur. Donc voilà, on essaye aussi d'apporter toutes les nuances qui peuvent exister autour de la notion de fausse information, pour pas être dans le c'est tout blanc ou c'est tout noir, comme en science d'ailleurs, le fait que la science, ça évolue tous les jours, que quelque chose qu'on croit vrai à un moment peut plus tard être contesté par des chercheurs ou inversement, enfin voilà, c'est pas binaire, et c'est ça qui est difficile à transmettre.
Et sur les sciences, vous avez organisé un escape game, justement, je crois. Comment
oui,
ça s'est passé
là, en novembre, c'est tout frais. C'était dans le cadre de la fête de la science qui a lieu en novembre à La Réunion. On avait envie de proposer quelque chose, parce que l'université participe à la fête de la science, et donc on voulait inscrire les BU là-dedans. Et un peu par hasard, en fait, avec une collègue, on est tombé sur un escape game développé par deux associations, donc dans le cadre de la fête de la science, donc qui s'appelle Escape Game Panique dans la bibliothèque, qui a été développé spécifiquement pour la fête de la science 2018. C'est un escape game clé en main, donc c'est super bien parce qu'on n'a pas besoin de rédiger le scénario, de trouver les indices, de les produire, enfin, etc. C'est vraiment fait pour nous faciliter la vie. Et le thème donc cette année de cet escape game, c'était les idées reçues en science. Donc on s'est dit c'est super, c'est facile à mettre en place, ça va pas nous prendre trop de temps, on va faire ça. En plus les étudiants ils sont très très friands de ce type de jeu. Donc voilà, on l'a fait donc avec la BU Sciences et également la BU Droit Lettres sur le campus de Saint-Denis. Et ça a très bien marché. En quelques jours, il y avait 80 places, enfin différentes sessions organisées, 80 places disponibles. En, je crois, 2 jours, les 80 places étaient réservées. Enfin voilà, ça a marché très bien. Et donc, le principe de cet escape game, c'était de dérouler, enfin de trouver différents indices pour à la fin ouvrir une boîte, voilà, et contrer les obscurantes qui étaient un groupe de diffusant de fausses informations dans le but de mettre un peu la panique dans la population. Et ça permettait de revenir sur différentes idées reçues les hommes sont plus doués que les femmes pour les sciences, les vaccins ne sont pas sûrs, l'homme descend du singe, enfin voilà, différentes idées comme ça. Et à la fin de l'escape game, il y avait un temps d'échange entre nous, enfin les organisateurs, le maître du jeu et les participants pour revenir sur chacune de ces idées reçues et avoir un temps d'échange, de discussion, voilà. Donc ce n'est pas une formation en tant que telle, mais c'est vraiment un jeu, mais ça apporte quand même des éléments pédagogiques.
Et est-ce qu'il y a des sources, enfin, peut-être que vous le savez tous dans la salle, et je suis la seule à ne pas le savoir, mais est-ce qu'il y a des sources, des endroits où on peut trouver ce genre de ressources justement pour les bibliothèques? Est-ce qu'il y a des associations spécialisées en escape game ou en autre type de collaboration pour les bibliothèques médiathèques, ou est-ce que vous avez trouvé ces deux associations par hasard?
Alors, en fait, c'était sur le site de la Fête de la Science. Le kit de jeu est mis à disposition en téléchargement. Voilà. Après, je sais qu'à La Réunion, et c'est peut-être un projet qu'on va avoir, il y a le Canopé aussi, qui propose des formations à la conception d'escape game, donc pas forcément liées à l'éducation aux médias, mais ils sont compétents pour former les bibliothécaires à la mise en place et à la rédaction de scénarios pour des escape games. Donc on se dit que peut-être nous aussi, on pourrait développer nos propres escape game maison. Alors, sur peut-être d'autres sujets, hein, par ailleurs. Mais en tout cas, non, je ne sais pas s'il y a un site où on pourrait trouver une liste d'escape game clé en main. Ça, je ne sais pas.
C'était au cas où, puisque l'objectif, c'est de mutualiser aussi les outils, les savoirs et les interrogations.
Ouais. Juste la Rotonde, en fait, qui est le Centre de culture scientifique de Saint-Étienne, propose un escape game aussi sur justement les fake news, rechercher des indices, voilà. Mais a priori, ils ne sont pas encore sûrs de continuer, parce que voilà, nous on essaie de l'accueillir dans notre journée média, mais voilà, mais ils font ça aussi.
Mais ce qui nous permet d'enchaîner très fluidement sur ce que vous faites, vous, en termes d'éducation aux médias à Tremblay. Peut-être si on peut, vous pouvez nous dire ce que vous avez déjà fait. Et puis, je me disais, après, on pourrait montrer la petite vidéo que vous avez préparée avec Sylvie Fanière pour sa résidence. Et puis, nous dire en quelques mots ce que vous prévoyez comme type d'atelier, avec quel public pour les mois qui viennent.
Tout à fait. Donc, la première année, donc sur 2017-2018, donc on a proposé 5 ateliers et pratiques. Et 3 rencontres. Donc les ateliers pratiques, moi je peux vous donner des exemples. On en avait un sur l'analyse d'une image, un sur l'analyse de l'information et la vérification des sources, la création d'une web radio, et un autre sur la maîtrise de la gestion de son image sur les réseaux sociaux. Donc ça, tout, en fait, ces ateliers, ils étaient pensés en une seule séance. Alors pour c'est peu pour 2 raisons. Une, déjà, on va être très transparent, la difficulté, parce que c'est l'atelier tout public, hein, donc en médiathèque, c'était pas du tout public captif, c'était voilà en direction du tout public, et effectivement il est très compliqué de mobiliser les adultes, et en tout cas chez nous, peut-être que vous n'avez pas ce problème là, mais bon, je pense qu'on le rencontre beaucoup, sur du temps long. Donc du coup les gens étaient intéressés, mais voilà, ils se dégageaient sur une séance, et ils avaient du mal à s'engager davantage dans le temps. Et pour une autre raison aussi très pragmatique, pour des raisons tout simplement de moyens, puisque la seule personne chez nous qui était il y a une seule personne chez nous dans l'équipe qui est en capacité de faire ces ateliers. Et voilà, une question de temps, tout simplement, on connaît tout ça, de ressources humaines à dédier au projet et on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Mais bon, du coup, c'était une première étape. Et bon, également des rencontres avec des intervenants extérieurs qu'on a pu faire, une sur les fake news, une sur la production collaborative aussi de l'information au cours des wikis. Voilà, donc c'était des choses assez la première année ponctuelles et voilà.
Et après, vous avez entendu parler des résidences de journalistes.
Oui, donc moi, j'ai assisté en 2016, je crois, à la présentation par donc Valérie Roar, qui était la première, je crois, qui a fait une résidence
en France.
Une journaliste, qui, du coup, a fait effectivement une résidence dans les Hauts-de-France, les premières résidences DRAC, voilà. Et donc, du
peut-être
coup...
Peut-être on peut dire juste... Je dis juste deux mots sur les résidences, sauf si vous êtes tous au courant de ce que c'est. Non, alors vite fait, je mets ma casquette journaliste résidente, mais très rapidement. Le ministère de la Culture et de la Communication a mis en place ce dispositif en 2016. Il s'agissait d'envoyer des journalistes un peu comme les artistes en résidence, enfin sur ce modèle-là, en tout cas sur des territoires, pour que ces journalistes y restent un certain temps et collaborent. Alors le premier volet, c'est toujours d'aider au développement, à la création, à la pérennisation de médias de proximité. Le deuxième volet, c'est avec ces médias de faire de l'éducation aux médias auprès des divers publics du territoire. C'est souvent des territoires politiques de la ville. Après, c'est les DRAC, donc les directions régionales des affaires culturelles, qui ont les lignes budgétaires chacune pour leur région et qui vont en lien avec qui des territoires donnés, qui en lycée agricole ou médiathèque ou collectif d'institutions, faire des appels, déjà rédiger son projet, savoir quel type de résidence ils veulent mettre en place, avec quel public, est-ce que c'est centré sur un média ou plusieurs, et ensuite recruter, faire un appel à candidature de journalistes. C'est des dispositifs ça peut durer 3 mois en immersion totale, 6 mois en immersion partielle, c'est-à-dire qu'on vient pendant 3 jours, on repart chez soi pendant 3 jours. C'est un dispositif qui s'adresse à des journalistes, donc s'ils sont salariés, ils ont trop peur de lâcher leur poste, ils ne le lâcheront pas, même pour un très beau projet comme celui-là. Les pigistes ont quand même besoin de garder leur contact avec les rédactions parce qu'ils sont précaires. Et puis sinon, ça peut être étalé sur des périodes plus longues. Celle que j'effectue en binôme, elle dure depuis 2016 et on l'étale sur le temps. On a été renouvelé pour une troisième et dernière fois cette année. Voilà, l'idée, c'est la co-construction, c'est de discuter avec les partenaires, de faire avec eux. Surtout pas d'arriver et de dispenser notre savoir de journaliste, expliquer qu'on a raison et qu'on détient la vérité. C'est loin, loin, loin de ça. Et si ça vous intéresse, vous pouvez contacter vos DRAC pour savoir ce qui va être mis en place, s'il y a des appels à candidature en cours, si vous pouvez vous-même travailler avec une DRAC pour mettre en place une résidence. Je m'arrête là, à vous.
Donc du coup, on est pas donc suite à la découverte de ça, je me suis dit que ça serait vraiment très pertinent d'accueillir une journaliste. Enfin, en l'occurrence, c'est une journaliste. Je salue, elle vient d'arriver dans la salle. Voilà, Sylvie Fanière. Et donc effectivement, la spécificité aussi, c'est que les médiathèques en fait ne se saisissaient pas et ne se saisissent aujourd'hui très peu. Donc je fais un appel à vous, aux bibliothécaires, justement de ces résidences. Et il y a eu vraiment une grande satisfaction aussi de la DRAC qu'une médiathèque souhaite être porteur d'une résidence. Et du coup, il y a aussi un peu d'argent à prendre, hein, je le dis en passant, du coup. Voilà. Donc, voilà. Bon. Donc, je sais qu'il y a des collègues du ministère de la Culture qui doivent être dans le coin. Voilà. Et donc, c'est aussi j'arrête mes petites blagues, mais c'est aussi fortement financé par nous, par le conseil départemental, hein, voilà, qui a été très intéressé par cette résidence. Donc très concrètement, on va regarder la vidéo.
Alors, pas prévenu, mais... pardon. Niveau technique, est-ce que je vais faire une interruption technique insupportable? Je voulais savoir si vous pouvez. Non, voilà.
Regarde, Trump vient de trembler.
Si, si.
Tiens, regarde.
Ah ouais. Ouais,
je vais vérifier.
Ah ouais.
Ouais,
c'est
ouais.
Fou ça.
C'est dingue. Non. Mais c'est fou. Mais regarde.
Il y a Trump, il vient de trembler.
Trembler ici, il a tremblé là.
Ça ouais. Semble un peu bizarre comme info. Vous okay. Avez vérifié?
C'est marqué.
Ouais,
c'est
marqué. Partout, sur Internet.
Enfin, quand on trouve une info sur Internet, il faut un peu vérifier avant d'y croire. Attendez, on va déjà aller regarder sur l'agenda de Trump à la Maison Blanche, sur le site de la Maison Blanche. Tchic, tchic. Ben non, ils disent que Trump est en Floride en train de faire du golf, il n'est pas du tout à Tremblay. Hein.
Bon alors ça veut dire quoi ça?
Mais ça veut dire que quand une info nous parvient, il faut avoir des petits réflexes de vérification et c'est ce qu'on va faire toute cette année à Tremblay. Comme je suis journaliste en résidence, et je vous invite à venir à nos ateliers pour apprendre à décrypter le vrai du faux de l'info.
Ouais.
Mais il va quand même venir alors?
Non mais...
Alors, on salue les bibliothécaires qui ont des vrais talents de comédien, hein, voilà, hein, parce que ce sont trois bibliothécaires et Sylvie, du coup, la journaliste. Voilà. Donc cette résidence, en fait, elle vient débuter, hein, puisque c'est une résidence de septembre à juin. Donc c'est tout nouveau. Ce qui la caractérise, c'est qu'en fait, il y a vraiment une grande diversité d'actions qui sont menées. On est vraiment dans une démarche multipartenariale, puisqu'on travaille avec la direction de la jeunesse, tous les centres de loisirs enfance, les centres sociaux, le programme de réussite éducative, le cinéma. Et je pense que j'en oublie, et aussi les détenus de la maison d'arrêt, ce qui est aussi pour nous qui était extrêmement important d'avoir une action à leur égard, à leur attention. Voilà, donc il y a vraiment une très très grande diversité des actions qui sont menées, à la fois des choses qui ont, et les établissements scolaires que j'ai pas, tous les établissements scolaires, oui j'ai quand même oublié les établissements scolaires, tous les collèges et lycées sont partie prenante, et également plusieurs classes d'élémentaire. Voilà. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il y avait un certain nombre d'ateliers qui ont été... Sylvie, du coup, avait proposé des ateliers clés en main pour un certain nombre, et également la possibilité de co-construire vraiment quasiment à partir de rien. Voilà. Donc, on se retrouve dans des situations effectivement assez intéressantes où, à la fois, il y a certains partenaires qui, ont pris des ateliers clés en main, et puis un certain nombre, et même assez nombreux, qui, en fonction des besoins qu'eux-mêmes avaient identifiés, ont eu un échange très nourri avec nous, avec Sylvie et moi, pour effectivement déterminer leurs besoins et un atelier, en fait, ou un atelier, ou une action, ou d'autres choses dont je vous parlerai, vraiment à la carte. Donc la notion de co-construction, elle est vraiment centrale, effectivement, dans cette résidence. Le parti pris aussi qui a été le nôtre, c'était qu'on s'inscrive vraiment que les actions soient proposées sous forme de parcours. Justement, à l'encontre de ce qu'on avait fait, enfin à la différence de ce qu'on avait fait la première année, qu'on soit vraiment dans du temps long, l'objectif étant effectivement d'approfondir la question et puis de pouvoir vraiment mêler ateliers pratiques et temps réflexif. Donc, évidemment, c'était facile à faire cette année. Ce choix, il a été rendu possible par le fait que déjà on confiait l'action à un intervenant extérieur, donc à Sylvie. Donc effectivement, en termes de moyens humains, c'était beaucoup plus simple pour nous. Et puis, comme je l'ai dit, sous forme de boutade, mais on a quand même beaucoup de financement sur cette résidence. Donc du coup, ça permet effectivement ces parcours, ces temps longs. On aurait été dans un contexte budgétaire et de RH plus contraint, évidemment, on n'aurait pas pu faire les mêmes choix. Voilà. Donc, peut-être citer quelques...
Il va falloir faire très rapidement. Bon, je suis désolée, je n'ai pas vu l'heure passer.
Pardon. Du coup, en termes... je vais donner quelques exemples. Donc, il y a énormément d'actions différentes qui sont proposées par Sylvie. Alors, la thématique et donc les ateliers qui ont été les plus plébiscités, bon, ça revient un peu à ce que font les collègues, mais c'était vraiment le choix des partenaires. C'est donc un parcours qui s'appelle Chasseur d'intox. Donc, effectivement, qui est un parcours qui est construit sur 7 séances, enfin entre 5 et 8 séances, relativement long. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail du coup parce que je n'ai pas le temps. Il y a également, un atelier autour de Snapchat, c'est toi l'expert, où justement on met les gamins en situation aussi d'expertise tout en profitant pour leur glisser de bons des conseils et qu'eux-mêmes créent des conseils sur les bons usages à avoir sur les réseaux sociaux. Et puis il y a également, il y a plein d'ateliers différents, là j'ai pas le temps d'en parler, mais également il y a des actions qui sont des séances d'accompagnement de médias déjà existants sur le territoire, des médias amateurs. Donc par exemple au service jeunesse, la direction de la jeunesse, il y a des jeunes qui font un journal et d'autres une web radio. Donc du coup, là, il y a le besoin qui a été identifié par les partenaires, c'est un accompagnement de ces médias. Donc une fois par mois, Sylvie intervient dans la rédaction et accompagne ces jeunes. Voilà. Bon, donc, et puis on fait également un certain nombre de rencontres, mais j'arrête.
Je suis désolée, Yolaine, mais c'est un projet très très riche. Ouais. Vous connaissez son visage, vous allez pouvoir venir lui demander après si vous voulez. Et puis on assure la demi-heure, si j'arrive à maintenir la chrono, on pourra vous poser plus de questions à la fin. Valérie, je voulais revenir à vous pour demander, selon vous, quelle est la spécificité, on l'a un peu abordé déjà, mais en tant que prof, de votre point de vue, c'est quoi la spécificité de faire de l'éducation aux médias en bibliothèque? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça change?
Alors, du point de vue de la maîtrise du numérique, on dit que les élèves sont des digital natives maintenant. Donc, c'est plus du tout... ça a été abordé, je crois, au début. On n'est pas tellement intéressé par l'accès au numérique et la manière dont ils vont maîtriser l'outil. Ce qui nous intéressera davantage, donc, c'est distinguer l'info de l'intox, par exemple. Donc, il y a des ateliers qui sont très intéressants, d'abord par leur thématique, bien entendu, et aussi la déontologie de l'information. Ça va être l'autre aspect très important. Après, je voudrais revenir, on en a parlé aussi dans l'exposé, sur l'espace. On a ici un espace qui n'est pas la classe, qui n'est pas celui de la classe, et ça, c'est très important de sortir l'élève de son espace ordinaire. Il n'est plus devant son bureau. Ce sont nos élèves qu'on voit là, donc on peut les voir. Ils sont assis en cercle, ils se regardent, ils sont face à face, et on met en place un vrai débat. Ça, ce sont des choses qu'on n'a pas la possibilité de faire dans nos classes et dans nos établissements scolaires, tout simplement parce que on n'a pas le dispositif, on n'a pas l'espace nécessaire. Ensuite, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ici, il n'y a pas d'évaluation. On n'est pas... Ça, c'est évidemment... et l'élève, on l'a dit aussi tout à l'heure, hein, je ne fais que répéter, mais vraiment pour l'avoir vécu par l'exemple, que ici... Les élèves peuvent sortir de leur image. Donc un élève qui a vraiment dans son établissement scolaire une réputation de mauvais élève, etc., eh bien ici, il va dire des choses intéressantes, il va expliquer une démarche intuitive qui parfois va être celle qui, à la fin, va permettre de conclure l'atelier. On va dire, tiens, ben lui, c'était très intéressant. Donc c'est très valorisant aussi pour les élèves. Il y a évidemment l'aspect concret, puisqu'on a parfois des professionnels qui sont là. Et puis enfin, il y a le langage, qui n'est pas un langage pédago-moralisateur. Je ne sais pas si le terme existe. On n'est ni... Alors, c'est plus la famille qui parle, c'est plus le prof un peu moralisateur. Vous avez dit tout à l'heure, le contre-discours ne marche pas. Et nous, on n'est que dans le contre-discours, en fait, à l'école. Donc, on est souvent, en tout cas, dans le contre-discours. Et même quand on ne l'est pas, on est suspecté de l'être par les élèves. Il y a un problème quand même de confiance. On est les empêcheurs de tourner en rond, d'aller naviguer n'importe où sur le net. Enfin, voilà, il y a quand même cette idée-là. Donc, vous avez une posture différente par rapport à ça, et ils vous prennent plus au sérieux. Vous êtes, y a un regard qui est différent, donc une efficacité qui, à mon avis, est plus importante. Voilà ce que j'ai à dire.
Hélène, vous vouliez ajouter quelque chose aussi, je crois, sur cette question, sur la spécificité de l'accueil du public en bibliothèque?
Oui, par rapport au public étudiant, c'est vrai que je pense qu'on est assez perçus comme des experts, mais pour ça, il faut vraiment qu'il y ait la prescription de l'enseignant, parce que nos ateliers ou toutes nos formations, quelles qu'elles soient, sorties de ces deux IPIX, c'est pas inclus dans les maquettes. Ça vient en plus des cours classiques donnés par les enseignants. Donc il faut vraiment qu'il y ait le prof derrière, que nous, on fasse une grosse campagne de communication pour dire aux enseignants ce qu'on propose, nous, en tant que bibliothécaires, et qu'on n'est pas là que pour gérer des bouquins. Et une fois qu'ils ont compris ça, là, je me suis aperçue cette année qu'on avait... beaucoup d'enseignants venaient vers nous pour nous demander d'assurer des formations, je pense à Info-Intox, mais aussi droit d'auteur et plagiat, pas mal de choses hors recherche bibliographique traditionnelle, pure et dure. Et ils sont prêts pour ça à dégager sur leurs heures de cours à eux, qui sont déjà pas très nombreuses. Donc voilà, là je pense que quand l'enseignant il fait cette démarche-là et qu'il insiste auprès de ses étudiants sur le fait que c'est pas facultatif, que certes il n'y a pas d'évaluation, mais que c'est quand même obligatoire, je pense que ça nous légitimise en tant que, pas enseignants, puisqu'on n'est pas des enseignants, mais oui, experts quelque part du domaine. Et puis il y a un enjeu aussi peut-être supplémentaire à l'université, c'est que certes, il y a la construction de la citoyenneté, le développement de l'esprit critique, etc. Mais les étudiants, ils doivent aussi, enfin au lycée, c'est pareil d'ailleurs, ils doivent aussi produire des mémoires, des thèses, des exposés sur lesquels, même si notre atelier à nous, il n'est pas noté, les exposés, les mémoires, les thèses qu'ils font, elles le sont, et il y a des gros enjeux derrière pour la poursuite des études. Donc je pense qu'ils prennent conscience qu'on est là aussi pour les aider à réussir leur année, à passer dans l'année supérieure, à valider leur master, etc. Donc ça, oui, je pense que du coup, il y a quand même un intérêt particulier des étudiants.
Et donc ça, c'est plutôt l'aspect positif. Oui. Est-ce que ça pose des difficultés aux bibliothèques, aux bibliothécaires d'accueillir ces publics pour l'éducation aux médias? Est-ce qu'il y a des complications à gérer et comment vous faites?
Oui, de plusieurs ordres. Bah, déjà logistique, puisque les étudiants... Bon, on accueille aussi, enfin on va accueillir l'année prochaine des lycéens, donc c'est des gros effectifs quand même. Hein, c'est une trentaine d'élèves. En licence, ils sont aussi très nombreux. Donc nous, à la BU, on n'a pas vraiment les locaux adaptés pour accueillir des groupes aussi importants. Donc il faut qu'on scinde les groupes en deux. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un certain nombre de collègues disponibles pour assurer la formation. Et actuellement, là, on est, pour Info-Intox en tout cas, on était deux. On était deux l'année dernière, donc moi et une collègue. Et clairement, si on veut développer ça et le généraliser dans les autres BU, parce qu'il y a 6 BU à La Réunion, donc si on veut aussi que notre offre de formation, elle soit équitable et égale pour tous les étudiants, donc ça veut dire qu'il faut pas mal de formateurs derrière qui puissent assurer. Donc là, le 6 décembre, je vais former des collègues à l'animation d'ateliers Info-Intox pour qu'ils puissent ensuite même prendre en charge ces formations, enfin ces ateliers. D'accord. Et il y a aussi un dernier petit souci qui n'est pas propre à l'atelier Info-Intox, c'est quand même encore la question de la légitimité. Enfin, un certain nombre de collègues encore n'ont pas forcément intégré le fait que la formation, ça fait partie des missions des bibliothécaires, et ils assimilent ça à de l'enseignement, et nous, on n'est pas professeurs documentalistes, on n'est pas enseignants, on n'est pas profs, et il y a parfois des réticences à assurer des formations, qu'elles soient évaluées ou pas, de la part de collègues bibliothécaires qui tiennent à leur cœur de métier. D'autant plus quand c'est des formations comme Info-Intox, où pour le coup, on sort justement de la formation à la méthodologie de la recherche, où c'est un peu des choses qui font partie, pour moi, de nos compétences et de nos missions, mais qui sont quand même relativement, voilà, c'est des choses relativement nouvelles. Et il faut un peu rassurer les collègues, il faut effectivement beaucoup les former, leur dire que oui, ils sont légitimes et compétents pour... assurer ces séances, et que voilà, ils sont pas profs effectivement, mais qu'ils ont des choses à apporter. Il y a un gros travail pédagogique auprès des collègues aussi.
Vous rencontrez le même type de problème, Valérie, à la BPI ou d'autres difficultés pour la mise en place et l'accueil surtout de public en ce moment? Comment ça se passe?
Alors la difficulté que nous on va rencontrer, il y a, là où on vous rejoint, c'est la difficulté sur la gestion des espaces, parce que là, on parle de l'IMI, mais la BPI propose un certain nombre d'autres ateliers d'accueil de groupes. Donc, il y a une organisation et une gestion des espaces. Je l'ai pointé tout à l'heure, les ateliers Info-Intox, on est à un faux taux d'encadrement des groupes. Donc, il y a aussi la nécessité de mobiliser les collègues sur l'animation de ces ateliers. parmi toutes les autres tâches de médiation aussi qu'il y a à faire. Et puis peut-être une difficulté là qui est très prégnante pour nous, c'est ce choix, cette articulation entre le fait d'accueillir le plus grand nombre de classes et d'usagers, parce qu'on a vraiment beaucoup de demandes, ou de privilégier des parcours au plus long cours avec une même classe. Voilà, on est vraiment, c'est vraiment un point d'interrogation et de questionnement pour nous.
Et on a abordé en filigrane les partenariats. Je voudrais quand même vous laisser l'espace à chacune peut-être de préciser, si vous n'avez pas encore pu le faire entièrement, ce que ça peut apporter, mais aussi quelles difficultés ça peut éventuellement poser de collaborer avec des personnes qui n'ont pas le même métier que vous. Donc vous parliez de la différence de posture entre les bibliothécaires, autres professionnels et les profs, qui pouvaient être plutôt riches, plutôt utiles. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pointeriez en termes d'aspect positif, mais également est-ce qu'il y a des difficultés à souligner qui pourraient peut-être permettre à chacun de progresser suite à cette rencontre?
Moi, j'y vois surtout du positif, et je n'en ai pas parlé, mais tout le monde l'aura compris, évidemment, la complémentarité des compétences entre les uns et les autres. Donc, une vision plus pédagogique d'un côté et une vision peut-être plus théorique de l'autre côté, me semble-t-il. Et pour les élèves, c'est me semble-t-il, très, très bénéfique, au point où, peut-être pour conclure, en tout cas sur ma partie, notre classe média, les élèves ont décidé de faire une émission de radio qui sera entièrement consacrée à la vie d'une médiathèque parisienne, qui est la médiathèque Françoise Sagan. Donc ça prouve à quel point le va-et-vient entre un lieu et le collège est porteur, positif et constructeur.
Est-ce que vous souhaitiez les unes les autres ajouter encore? On en a parlé malheureusement, comme je suis obligée de raccourcir un peu cette dernière partie, j'en suis navrée. Mais peut-être est-ce que vous voulez soulever des points importants selon vous, des difficultés importantes ou des apports importants en termes de collaboration avec des professionnels de divers horizons?
Oui, moi je voulais, parce que je pense que ça me semble vraiment très très important. C'est vrai que l'EMI a vraiment été un formidable levier partenarial pour la médiathèque, parce que parmi les structures que j'ai citées tout à l'heure et qui sont très nombreuses, il y en a un certain nombre avec lesquels on ne parvenait absolument pas à travailler, et du coup avec les mêmes, je pense notamment aux centres sociaux, et qui c'était très compliqué, et avec cette thématique en fait ils se sont sentis tout de suite concernés par cette thématique, et donc ils sont partie prenante. Donc c'est vraiment important, ça nous permet aujourd'hui de travailler avec eux, et d'ailleurs avec un certain nombre d'entre eux on a engagé d'autres partenariats sur des champs qui n'ont rien à voir avec les EMI, et notamment avec sur la littérature, des choses qu'on aurait pas pu faire avant parce qu'il y avait beaucoup de défiance. Et ce que je voudrais dire aussi, ce qui est important, c'est que comme on a vraiment travaillé dans une co-construction, ils nous ont vus différemment, nous, bibliothécaires, et pour certains, ils ont cessé de nous voir comme des... Ah, ça, c'est pour bibliothèques et structures culturelles en général, moi je parle là en tant que plus globalement, comme des acteurs culturels qui recherchent uniquement des structures pourvoyeuses de public. Parce que c'est comme ça quand même qu'ils nous voient souvent, et je pense qu'on a aussi nous à s'interroger sur ce qu'on renvoie. Et avec l'EMI, ça a permis de dénouer des choses, donc je vous enjoins à travailler l'EMI, et après vos partenariats seront super.
Juste compléter, il me semble qu'en effet ça s'appuie sur des compétences vraiment complémentaires. Nous, on le voit avec donc bibliothécaires, professeurs, journalistes, mais aussi du coup ça nous oblige aussi dans la construction des ateliers à nous-mêmes être dans une pédagogie de relation à l'autre. Et vous aviez eu une jolie phrase qui était, c'était peut-être la définition de l'EMI, quoi. Et du coup, je trouve que ça, nous aussi, en tant qu'animateurs de ces ateliers, on est obligé aussi de se déplacer légèrement par rapport à notre profession et être peut-être donc plus dans une démarche d'écoute et d'attention aussi à ce que nous apporte l'autre. Et que ça, c'est très précieux après pour dialoguer avec les jeunes.
Et justement, après, est-ce que vous avez noté, alors là, je parle parce que vous nous avez parlé du fait que les jeunes, finalement, quand on les emmène vers la médiathèque, ils y reviennent avec un assez grand enthousiasme du côté de vos élèves à vous. Est-ce qu'au sein même des bibliothèques, vous avez noté un changement du rapport de ces publics, donc plutôt jeunes, hein, ceux qui viennent pour les ateliers EMI, est-ce que vous avez noté un changement dans leur rapport à la bibliothèque, à la médiathèque? Est-ce qu'ils viennent plus facilement, plus souvent? Est-ce qu'ils sont plus calmes? Est-ce qu'ils maîtrisent peut-être... Alors, je dis plus calme, c'est peut-être caricatural, mais c'est vrai qu'on peut parfois entendre une certaine animation des jeunes en bibliothèque, je l'entends moi-même, et je l'ai fait aussi quand j'avais leur âge. Mais est-ce que vous notez un changement du rapport de ces publics avec vos structures, suite aux ateliers EMI, bien sûr? Hélène, peut-être?
Alors, bah, nous, c'est un peu particulier parce qu'on a un public captif d'étudiants qui...
Ils n'ont pas le choix.
Bon, ils ne viennent pas tous pour autant, mais la plupart quand même des étudiants qu'on voit en formation, que ce soit pour les ateliers Info-Intox ou autres, connaissent déjà la bibliothèque et viennent déjà à la BU pour travailler au quotidien. Donc là, ça change. Je ne crois pas que ça change grand-chose à ce niveau-là. J'espère qu'ils viennent encore plus après. Par contre, ce qui change, c'est pour les lycéens, puisque, alors là, c'est pour 2019, on va proposer des ateliers Info-Intox avec un lycée qui est juste notre voisin, donc c'est assez pratique, et je travaille avec la professeure documentaliste pour mettre en place des ateliers pour les terminales, dans le cadre de la semaine de la presse qui est en avril chez nous. Et on accueille aussi depuis cette année pas mal de lycéens dans le cadre des TPE aussi, hein, merci la BPI pour ça aussi, donc des visites et des travaux travail de recherche documentaire dans le cadre des TPE. Et là par contre, je pense que c'est vraiment très positif parce que dans le fait qu'ensuite les jeunes reviennent, puisque beaucoup ne savent pas que la BU, qui est juste à côté de leur lycée, leur est ouverte. Que la BU, c'est une bibliothèque publique qui est accessible à tous. En plus, on n'a pas le problème des BU parisiennes qui sont parfois obligées, pour le coup, vraiment de limiter leur accès. Nous, la BU, elle est vraiment ouverte à tous. Et ça, les lycéens ne le savent pas. Donc, quand on les reçoit en formation, c'est toujours l'occasion de leur dire qu'ils peuvent revenir quand ils veulent, sans leurs profs, de manière tout à fait individuelle, qui seront les bienvenus.
Est-ce qu'ils le font?
Et ils le font, ouais, ils le font. Alors après, c'est difficile à quantifier, hein, mais certains, en tout cas, c'est sûr, quand ils découvrent, quand on leur dit qu'ils peuvent revenir à l'issue de la séance, qu'ils peuvent revenir bosser sur leur exposé le week-end même, ils sont... Certains sont vraiment contents. Donc là, je pense que ça permet un lien, ça permet aussi, dans le cadre de la liaison lycée-université, de commencer à les familiariser à ce qui sera peut-être leur environnement s'ils poursuivent à l'université. C'est, là, il y a vraiment quelque chose d'important qui se joue.
Et Valérie, à la BPI, donc vous disiez tout à l'heure, c'est pas les scolaires que vous recevez à la BPI, c'est pas votre public actuel, parce qu'ils sont trop jeunes pour le moment pour venir, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui change malgré tout, quelque chose qui peut se construire plus facilement peut-être?
Alors, en tout cas, ce qu'on observe sans doute, c'est là où ça peut avoir un impact, je pense, alors quand on accueille des classes, excusez-moi, je vais reprendre, quand on accueille des classes dans le cadre de l'EMI ou de visites de classes TPE ou autour de l'exposition Riyad Satouf actuellement, etc., je pense que les enfants se sentent réellement accueillis dans ce lieu. Donc je pense que ça germe. Hein, voilà. On a une autre période aussi où on reçoit beaucoup de lycéens, c'est la période de révision du bac. Donc je pense que tous ces accueils au long cours de toute l'année sont quand même une façon d'apprivoiser ce public, de nous-mêmes aussi nous apprivoiser mutuellement finalement. Et je pense que peut-être par rapport au collectif de collègues qui accueillons ces classes dans le cadre de ces ateliers, on pourrait peut-être capitaliser un petit peu notre savoir-faire et notre expérience aussi au bénéfice, par exemple, de cette période bac.
D'accord.
Voilà. Donc là, je parle plutôt du point de vue du personnel. Oui. Mais la BPI n'est pas un établissement de proximité. On ne fait pas de prêt de documents. Donc, on n'a pas les mêmes c'est plus difficile pour nous d'appréhender la façon dont ces jeunes reviennent.
Mais c'est vrai que ça nous emmène à la question suivante, qui est, est-ce que ça change pour les jeunes qui ne connaissaient peut-être pas les médiathèques, les bibliothèques locales ou nationales, publiques comme la BPI, est-ce qu'au niveau des bibliothécaires qui se sont retrouvés au contact de ces classes-là, est-ce que vous avez noté un changement du rapport avec ces publics-là? Yolaine, vous me disiez que la médiathèque, vous avez l'habitude de recevoir les jeunes, les ados qui viennent également pour les ateliers, donc que ça ne changeait pas tellement, en fait, qu'il n'y avait pas de rencontres nouvelles, je veux dire.
Disons que les jeunes qu'on reçoit dans le cadre de l'EMI ne sont pas différents des jeunes qu'on reçoit habituellement, quoi. Donc, il y a peut-être individuellement, mais je veux dire, en termes de sociologie ou de comportement, voilà, ils ne sont pas effectivement étiquetés EMI. Donc, du coup, ça ne change pas grand-chose. Les collègues sont toujours aussi agacés par certains et en aiment toujours autant d'autres. Donc, voilà, non, ça n'a pas changé grand-chose.
D'accord. Et Valérie, est-ce que vous avez noté de votre côté un changement, notamment de la part des collègues qui s'occupent des ateliers info-intox, peut-être?
Je pense que comme nos ateliers sont vraiment basés sur une pédagogie très interactive, on est passé d'un atelier peut-être un peu moins académique à un atelier plus participatif. Et du coup, c'est assez complexe parce que ça nous met plus en danger, mais c'est aussi plus enthousiasmant dans notre relation avec le groupe. Je ne sais pas si c'est très clair pour des personnes qui ne le vivent pas, mais... Voilà.
Est-ce que c'est clair pour les... Oui.
Voilà. Donc, l'autre dimension aussi, c'est que ce dispositif-là nous permet aussi de... Enfin, ça nous demande d'appréhender aussi le fonctionnement du groupe dans ses relations internes. Et c'est là aussi que la présence des enseignants et leur retour est très important pour nous. Parce qu'on a besoin de comprendre comment le groupe fonctionne, comment ça se positionne, comment tout ce travail qui est fait en atelier va être poursuivi, comment les enfants vont s'en emparer. Je pense qu'on a une attente moins académique. Enfin, par exemple, je vois bien l'atelier Info Intox. Au départ, on démarrait avec une présentation des outils, des codex, etc. Tout ça, on a laissé tomber. On essaie de rentrer plus de leurs questions. Vous voyez, on est moins dans un déroulé un peu académique. Et on est plus dans cette co-construction aussi, finalement, de l'atelier avec les élèves.
Comme si ça s'était flexibilisé un petit peu, alors.
Oui. Mais du coup, ça pose la question des outils qu'on peut leur donner après, plutôt. L'autre question aussi que ça nous pose, c'est comment ce travail-là peut interagir aussi au sein de la famille. Enfin, voilà. Puisque pour le coup, là aussi, nous, on n'a pas du tout de relation.
Alors ça, c'était une question, je crois que c'était... Je sais, non, pas du tout. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai pas pris le temps d'aborder avec vous parce qu'il fallait qu'on aille un peu vite. Mais c'est vrai que c'était un point intéressant dans les différentes conversations, que ça pouvait arriver, et je crois que c'est vous qui m'aviez dit, Valérie, dites-moi si je me trompe, mais que des élèves qui se rendaient en médiathèque pour un atelier dans le cadre scolaire pouvaient découvrir la médiathèque à cette occasion-là, découvrir que c'est possible d'avoir une carte à la médiathèque, revenir avec les parents pour faire cette carte, s'inscrire, que les parents, par ce biais-là, pouvaient découvrir l'établissement, et ensuite, s'ils le souhaitaient, s'ils se sentaient intéressés par tel ou tel atelier, également trouver leur place. Et que donc, par là, il y avait comme une sorte de chaîne d'inclusion, finalement, des publics, c'est ça ? C'était, ouais.
Oui, je confirme.
Très bien.
Et alors, mais je voudrais juste. Je crois que vous avez parlé de mise en danger. Et l'enseignement aux médias de l'information, c'est vrai que c'est un enseignement qui n'est pas neutre, qui nécessite des positionnements de la part des adultes encadrants. Et moi, la première, c'est un enseignement qui fait peur, qui peut effrayer quand même par les prises de positionnement qu'on a parfois à prendre devant le groupe d'élèves. Et ça, il peut y avoir des débats, ça peut susciter des situations plus inédites qu'en cours avec un contenu tout à fait banal et ordinaire.
Et, oui, peut-être pour rebondir sur ce que dit Valérie, enfin, moi, ce que j'observe à la BPI, c'est que c'est le même groupe qui est depuis l'origine de l'atelier. Et il me semble que du coup, on est de plus en plus fin et on gagne en expertise sur les contenus, sur les outils, sur ce qu'on souhaiterait développer. Et je trouve que ça, c'est vraiment une grande force qu'on apprend aussi en avançant. Et voilà, je trouve ça bien.
Et je vais me permettre de déborder encore 3 minutes juste pour demander ce que chaque structure souhaite mettre en place. Et ça nous permettra ensuite d'ouvrir aux questions, aux remarques que vous auriez ajoutées. Si juste vous avez 2-3 points ou moins ou plus qui vous paraissent, mais il va falloir faire vite, qui vous paraissent importants à aborder sur ce qui pourrait être mis en œuvre dans les temps à venir, un temps moyen, court, long, hein, mais pour pouvoir développer ces ateliers, la relation avec le public, la formation peut-être des encadrants, etc., différents partenariats. Qu'est-ce qui est prioritaire pour chacune d'entre vous là dans les temps à venir?
Alors, bah, je l'ai déjà évoqué, hein, y a la question là qu'on n'a pas encore tranché de proposer le module. Enfin, à la même classe, plusieurs modules. Je pense que ça nous permettrait de mieux développer les projets et de voir réellement les bénéfices qu'en tireraient les classes. Alors peut-être qu'il faudrait qu'on l'expérimente, qu'on ait une classe un peu comme ça, test. On réfléchit beaucoup sur introduire un module autour de la fabrique de l'image. On aimerait beaucoup continuer à travailler sur la question des stéréotypes, des préjugés de confirmation, etc. Et donc, du coup, on réfléchit aussi à articuler ça peut-être dans le parcours média avec des ateliers de philosophie, parce qu'on pense qu'il y a quelque chose là dans la façon de prendre la parole et qui pourrait être très utile, de développer l'esprit critique, qui nous semble intéressant. Et puis, donc, on voudrait vraiment améliorer nos outils d'accompagnement pour les élèves et aussi pour les familles. C'est quelque chose sur lequel on a commencé à réfléchir. Voilà.
D'accord.
Et puis on poursuit la formation des collègues.
Et en parlant de formation, vous aviez trouvé...
Voilà, moi, je serais heureuse d'apprendre qu'un jour, on pourrait avoir une formation commune avec les bibliothécaires pour justement être dans la complémentarité la plus totale. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre, nous, de leur part.
Et Hélène, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, donc nous, dans les projets à venir là rapidement, donc il y a ce projet d'atelier Info-Intox avec donc la professeure documentaliste du lycée voisin. Donc là, c'est un format qui évolue un petit peu par rapport à ce qu'on a déjà fait, puisque elle a été mandatée par son proviseur pour proposer un projet autour du numérique, une mission virtuelle, en fait. L'objectif étant de proposer des contenus sur le site du CDI, enfin, du lycée, et la plateforme Moodle, donc de cours en ligne, de l'Académie de la Réunion. Et donc, comme on avait ce projet de mettre en place des ateliers Info-Intox, elle m'a sollicité pour qu'on travaille ensemble sur le développement d'outils donc à mettre en ligne sur cette plateforme Métis, TICE. Et donc voilà, donc elle a déjà développé une petite vidéo sur les bons réflexes à avoir pour vérifier de l'information, les ressources que moi j'utilisais déjà pour les ateliers Info-Intox ont été mis en ligne aussi sur cette plateforme. Donc l'objectif, c'est que les élèves auront une séance de 2 heures à la BU donc pour décortiquer une fausse information, et avant et après, ils pourront aussi, grâce à toutes les ressources qui seront mises en ligne sur leur plateforme Moodle, travailler tout ça en amont avec leurs enseignants, puis ensuite à l'issue de la séance. Donc pour que l'atelier ne se déroule pas que sur les 2 heures de présence à la BU, mais que ce soit vraiment sur un temps long, sur plusieurs séances, et que ce soit aussi pris en main par la prof doc et par les autres enseignants.
Et par vous également, j'ai bien compris. Donc le processus, vous avez déjà mis en place en quelque sorte un échange de savoir de manière relativement informelle, mais ça répond un petit peu, en tout cas en partie, au souhait de Valérie. Ouais. Et Yolaine, vous avez envie de mettre en place un plan EMI, c'est ça?
Non, alors tu es déjà là. Moi j'ai noté un plan EMI avec une attention particulière
accordée aux adolescents et aux parents. C'était ça que j'avais noté. Écoute, c'est sur ma dernière page. Donc je suis navrée, c'est de ma faute. Yolaine, vous prévoyez quoi?
Non, l'objectif, bien sûr, c'est de poursuivre notre action après le départ de Sylvie Fagnard. Je pense qu'elle ne va pas rester toute la vie avec nous, malheureusement. Non, donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir nommer, enfin, parmi l'équipe de bibliothécaires, en former vraiment plus spécifiquement 2-3 pour qu'ils soient vraiment les référents EMI et qu'ils prennent qu'ils s'en emparent complètement. Et puis, on est en train d'élaborer notre projet d'établissement. Et l'objectif, évidemment, c'est de mettre l'EMI comme l'un des grands axes de ce projet d'établissement et après le faire vivre l'axe. Voilà.
Et ben, peut-être si ça peut être utile de mentionner que vous avez accès, enfin Valérie a plus de détails que moi, mais vous avez accès à une page spécifique pour cette journée.
Oui, je voulais rebondir par rapport à ce que disait Hélène et la mutualisation des ressources. Donc à l'occasion de cette journée d'études, on peut vous annoncer donc la création d'une rubrique qui s'appelle Éducation aux médias et à l'information, qui sera accessible sur le site pro de la BPI. Et qui vous permettent donc d'accéder à un certain nombre de ressources, de fiches pratiques d'expérience. Donc on vous invite à contribuer à ce site. L'idée, c'est vraiment que ce soit un site d'échange, de mutualisation, qui nous permette de poursuivre la réflexion, mais aussi de nous aider à poursuivre la mise en place d'actions autour de ces questions, parce qu'on a vu qu'elles étaient quand même très, très prégnantes et très délicates. Donc, Éléonore...
Est-ce que c'est elle ? C'est elle ? Voilà. Donc ça, c'est la page qui s'affiche. Vous pouvez donc retrouver cette page-là à l'issue de la journée. Et il reste exactement 19 minutes si vous avez envie de contribuer vos expériences, poser des questions supplémentaires, demander plus de détails à Yolène que j'ai méchamment coupé tout à l'heure quand elle nous donnait le détail de tout ce qui allait se passer pendant cette année. Est-ce qu'il y a des questions, des propos, des envies de contribution dans la salle ? Des microphones peuvent circuler. Et je me permets de dire, comme je le dis à chaque fois en atelier, il n'y a pas de questions idiotes. Hein. Jamais, jamais, jamais. Parce que je pense qu'on fait tous un peu le problème entre adultes. On fait semblant d'avoir capté des trucs qu'on n'a pas compris. Et après, on espère désespérément que quelqu'un va le redire de manière plus claire. À chaque fois en atelier, je demande aux personnes de poser autant de questions qu'elles le veulent, de ne pas avoir peur. Ça, c'est la chance qu'on a en tant que journaliste. On ne se sent pas humilié quand on ne sait pas quelque chose. On est censé ne pas savoir pour pouvoir poser des questions. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je suis sûre que même si vous avez un peu peur de la question, elle sera très utile pour d'autres personnes en plus. Madame Fagnard.
J'en profite tant que les doigts ne sont pas encore tous levés et pour faire un petit rab par rapport à ce que disait Yolène. Donc moi, je m'appelle Sylvie Fagnard, je suis donc la journaliste en résidence à Tremblay en France cette année. Et puis je suis aussi avec Louise, on est à l'initiative de cette plateforme médiaeducation.fr dont Louise vous a peut-être dit un petit mot. Pardon, je n'étais pas là au début. Je voulais juste dire quelque chose sur les publics parce que... Pardon d'être arrivée un peu en retard, j'avais d'autres obligations avant, mais vous avez parlé beaucoup des jeunes, et des publics jeunes, et ça me semble absolument pertinent. Évidemment, nous, à Tremblay, la plupart des actions sont plutôt à destination des publics jeunes, de 9 à 25 ans. Mais je voulais insister sur quelque chose qui est en lien avec l'actualité récente et les agressions de journalistes, vous m'avez comprise, dans les manifestations des Gilets jaunes, des équipes de journalistes ont été agressées et qui mettent en lumière la défiance quand même abyssale qu'il y a entre notre profession et le grand public. Et il me semble que les médiathèques sont pour ça un lieu idéal pour faire de l'éducation aux médias et à l'information, puisque le public des médiathèques, ce ne sont pas seulement le public jeune, mais tout un chacun. Et donc, minute promo que Yolène n'a pas faite parce qu'elle est très bien élevée, mais moi, ce n'est pas mon cas. Ce vendredi, 30 novembre, à la médiathèque de Tremblay, on fait une soirée consacrée justement au métier de journaliste, à la façon dont travaillent les journalistes, aux critiques qu'on peut leur adresser. Et donc ça, c'est une soirée qui est ouverte à tout le monde. Et je pense, et ça, je dis ça pour nous les journalistes, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, mais que ces rencontres entre le grand public et le journaliste et les journalistes sont vraiment sans doute l'une des seules solutions qu'on a pour essayer de réduire ce fossé. Voilà, donc je voulais mettre l'accent sur le public adulte, où il me semble aussi que les médiathèques sont les meilleurs.
Alors, on voit que Sylvie n'a pas été terrifiée par l'intervention de Madame Fromex auparavant, qui disait qu'on n'avait rien à faire. Non, mais je plaisante. Je plaisante. J'exagère. Mais je trouve que c'est intéressant. Non, finalement, c'est vraiment intéressant, parce que je trouve qu'on revient toujours à la même chose. Il n'y a pas, évidemment, c'est pas uniquement les journalistes qui doivent faire de l'éducation aux médias. C'est pas non plus exclure les journalistes du propos. Mais si la table ronde a été bien menée, bien entendue aujourd'hui, qu'il y a une question au fond, le temps que je finisse la phrase, comme ça le micro pourra monter. On est bien sûr là pour travailler ensemble et s'apporter nos compétences respectives, et c'est plutôt très très riche. Madame au fond.
Oui, bonjour, je me présente, Elisabeth Lalo, direction générale des médias et des industries culturelles, donc des GEMIC. Je pense qu'il faut féliciter très largement Devina Fromec pour le discours remarquable et la présentation remarquable qu'elle a faite, tout simplement parce que le problème aujourd'hui, c'est de comprendre comment évoluer les médias, d'où on vient. Et je pense qu'elle a dressé un tableau extrêmement intéressant, et que de ce que j'entends aujourd'hui, de vos expériences très intéressantes qui suscitent chez vous beaucoup d'enthousiasme, probablement parce que vous avez eu des retours extrêmement intéressants et que c'est une matière nouvelle qui se développe au sein des bibliothèques, je pense que ça me confirme aujourd'hui qu'il y a un grand, grand besoin de formation de tous ceux que vous êtes, tous autant que vous êtes, les bibliothécaires, les responsables de bibliothèques qui attirent énormément d'usagers, jeunes et moins jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité extrêmement importante de la part de ceux qui font vivre les bibliothèques. Mais cette responsabilité, elle repose principalement, il me semble, de ressenti que j'ai de cette table ronde, elle repose sur une formation qui consiste d'abord à comprendre pour agir et faire agir, pour faire en sorte que le public que vous allez avoir, qui va se développer de jeunes et moins jeunes, encore une fois, sur l'éducation aux médias, que ce public est en face de lui, de vrais pédagogues et de vrais de personnes qui ont une connaissance de l'histoire des médias, autant qu'un vrai savoir-faire et autant qu'un vrai talent de transmission de savoir sur les médias, l'information, le nouveau paysage, l'impact du numérique sur la transformation de l'information et des médias, la capacité à maîtriser les risques et savoir transmettre aux jeunes et aux moins jeunes le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est quand même une société où il faut savoir maîtriser les risques des contenus, savoir ce que c'est quand même avoir quelques notions de droit et ne pas se priver de dire qu'aujourd'hui on est quand même dans un état de liberté, mais aussi ça qui veut dire un état de droit et de valeur, et que j'ai peu entendu sauf dans la bouche de Devina Meck cette notion de valeur qui, à mon avis, est extrêmement importante, puisqu'aujourd'hui, le levier essentiel de la formation aux médias, de l'éducation aux médias, c'est de revenir aux valeurs et à ce qu'on appelle la citoyenneté numérique. Aujourd'hui, l'éducation aux médias repose sur... C'est toute une histoire, c'est 30 ans, c'est 50 ans, comme vous avez dit, mais aujourd'hui, il faut développer des connaissances et des compétences au sein des bibliothèques pour comprendre comment aujourd'hui se passe la transition numérique et quelles conséquences ça a. Donc je pense que aujourd'hui il ne s'agit pas seulement de faire de l'info intox et de travailler autour de l'information des informations, il faut commencer par comprendre, revenir au point de départ, c'est-à-dire à l'information, et dérouler tout ce qui nous a conduit aujourd'hui à des comportements radicalistes et terroristes et complotistes, mais il y a vraiment aujourd'hui des connaissances et des compétences. Alors, je ne voudrais pas faire trop long.
Ouais, je suis désolée, parce qu'il va falloir laisser la parole aussi à d'autres personnes.
Absolument. Donc, je m'arrête là, mais ça me semblait essentiel de dire qu'il y avait des connaissances et des compétences à développer aujourd'hui de la part de tous ceux qui vont contribuer à l'éducation aux médias dans les bibliothèques. Mmh. J'ai développé au sein de la DGMIC, la Direction Générale des Médias a développé un programme de formation qui s'ouvre aux bibliothèques et au plan bibliothèque. Je suis à la disposition de tous. au forum tout à l'heure. Je vous présenterai ce plan de formation qui s'adresse
s'il
autant
vous plaît, madame,
aux bibliothécaires et aux
conservateurs. Dans la mesure où vous allez pouvoir, excusez-moi, voilà. Vous allez pouvoir en parler au forum tout à l'heure, je suis désolée, mais comme
c'est,
ça...
Voilà, vu mais que je déjà... m'arrête là. C'est
merci,
simplement
c'est
le programme Émile et que je vous parlerai tout à l'heure. Vous
ça
donnerai
marche.
Mes coordonnées. Voilà. C'est très important pour tous ceux qui
merci
travaillent
beaucoup.
Au plan bibliothèque.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir dans la salle? Est-ce qu'il y a des choses qui sont restées un peu floues, un peu pas claires? Est-ce que vous avez des informations, des expériences à ajouter? Sentez-vous libre même s'il reste peu de temps. Oui, monsieur.
Bonjour, Gérard Marquier, chargé d'études. Deux petites choses. La première, c'est que avec Cécile Dolsal présente dans la salle, nous avons fait une étude sur les interactions entre les jeunes numériques, les bibliothèques et le territoire. Et on retrouve beaucoup de choses dites par Divina Fromex tout à l'heure. Donc ça nous réjouit aussi et ça nous conforte dans les analyses qu'on a pu faire dans le cadre de ce travail qui est récent, puisque ça a été fait l'année dernière. La deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport à la table ronde, juste relever un propos qui m'a un peu interrogé et qui fait écho par rapport à nos études, c'est la question, pour nous, les pratiques de jeunes ne sont pas homogènes, et les équipements non plus. C'est-à-dire qu'on dans nos études, on a constaté qu'il y avait une grande diversité d'équipements chez les jeunes, au niveau des téléphones, par exemple, au niveau des accès aux ordinateurs, au niveau des accès aussi à Internet. Et deuxièmement, les usages ne sont pas les mêmes non plus. Tout ça est très corrélé à l'âge, au genre et à l'environnement social des jeunes. Donc on ne peut pas parler de digital native. Je crois que c'est une expression purement marketing.
D'accord.
Il faut s'en démarquer. Et la question de la formation passe aussi par l'observation des publics jeunes et de leurs pratiques pour pouvoir intervenir de manière pertinente.
Voilà. Et est-ce que justement vous préconisez, du coup, avec cette hétérogénéité-là, que les bibliothèques maintiennent cette action d'accès au numérique, alors pour des jeunes qui auraient moins accès, pour qu'ils puissent apprivoiser l'outil? Ou est-ce que je...
Oui, bien sûr, oui, oui. Tout à fait. Mais oui, bien entendu, on observe d'ailleurs des situations, des actions avec la BPI qui sont très pertinentes, et bien entendu. Favoriser l'accès au numérique est important, mais... les jeunes ne viennent pas forcément en bibliothèque pour l'accès au numérique. Enfin, certains, oui, parce que notamment, ils sont très friands d'accès au Wi-Fi dans certaines bibliothèques, puisqu'ils n'ont pas forcément le Wi-Fi chez eux, ou en tout cas, des débits qui sont... ils sont tout à fait comment dire, intéressés par l'accès au Wi-Fi, et puis l'accès à des jeux vidéo. Enfin, bon, tout dépend de l'offre. Ils y viennent aussi pour la socialisation, pour le rapport entre pairs, pour les rapports avec les bibliothécaires. Il y a, comme le disait Divina Fromeg, un continuum aussi de leur pratique. Et on ne peut pas séparer le numérique des autres pratiques des jeunes.
Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait... Oui.
Merci. Bonjour, Véronique Palanchet, bibliothèque universitaire de Paris 13, à Villetaneuse, en Seine-Saint-Denis, en l'occurrence, et ce n'est pas tout à fait neutre. En fait, j'étais un peu interloquée. Enfin, dans ce que vous avez dit sur ce que vous faites à La Réunion, on a fait à peu près la même chose, mais je crois qu'il y a beaucoup de BU qui le font. Ce qui pose la question de la mise en place d'éducation aux médias dans l'enseignement supérieur, parce que en termes de réglementation, d'encadrement, etc., on est face à un vide abyssal, c'est-à-dire l'EMI, ça s'arrête en terminale, après, il n'y a plus rien, pour tous ceux qui ne font pas Infocom. Et donc, c'est quand même une question à se poser sur quels sont les acteurs et comment ils jouent, puisqu'on développe tous. Enfin, il y a beaucoup, je suis par ailleurs membre de la commission pédagogie de la DBU, il y a beaucoup de bibliothèques universitaires qui, sous des formes différentes, développe des actions d'éducation aux médias, de lutte contre l'infox, etc., mais de manière forcément un peu isolée et pragmatique, ce qui est plutôt bien dans un premier temps. Mon intervention était par elle portée plus sur Paris 13. C'est, nous, on a travaillé cette année dans le cadre de Savant de banlieue, donc de la fête des sciences en France, sur comment déceler des fake news vers des lycéens. Et on a fait tout un travail, en fait, derrière, on a orienté l'information sur le fait de réhabiliter le travail du journaliste. Et je pense que c'est vraiment un effet de génération, c'est-à-dire que dans ma génération, le travail à faire, c'était que se dire que c'est pas parce que c'est écrit dans Le Monde que c'est vrai. Mais ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est de se dire que peut-être si c'est écrit dans un journal, il y a eu avant un travail d'analyse et de critique, et ça, c'est quelque chose qui étonne beaucoup les lycéens qu'on a rencontrés, les étudiants de premier cycle à Villetaneuse. C'est... Mais vous êtes vraiment sûr qu'il juste, il ne nous manipule pas, parce que ce qui est dit sur Facebook, il n'y a pas de raison que ça manipule. Et donc, j'ai quand même, je me pose vraiment des questions sur la position qu'on doit adapter sur ce genre de travail, d'atelier, etc. C'est-à-dire pendant longtemps, on était dans une logique de il faut déconstruire le fait que parce que la télé ou les journaux le disent, c'est vrai. Aujourd'hui, je m'interroge sur le fait que peut-être il faudrait travailler sur le fait que si la télé et les journaux le disent, il y a peut-être un peu de vrai quand même, plus en tout cas que quand on le trouve sur un réseau social sans aucun filtre. Et donc c'est pour ça qu'en fait votre intervention qui par rapport par ailleurs m'a beaucoup intéressée, m'a un peu, je parle à madame Fraumey qui est juste devant moi, m'a beaucoup intéressée, m'a un peu gênée sur la remise en cause ou l'apparente égalité des différents médias en termes de diffusion d'un message vérifié. Voilà, c'était pas vraiment une question, mais enfin si, il y en a une derrière.
Non, mais merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir à ça ou sinon apporter une autre contribution? Il nous reste très exactement 4 minutes, donc ça laisse quand même de la place pour s'exprimer. Oui, il y a une main là-bas, c'est ça? Ah, il y a 2 mains levées, pardon.
Non, c'est effectivement une interrogation que j'ai. Enfin, ce qui peut faire un petit peu peur pour aborder ces sujets-là. C'est justement comment soi-même, et d'où l'intérêt d'une formation, comment soi-même en fait déterminer et aider les jeunes ou les moins jeunes à déterminer une info fiable d'une info non fiable. Et je pense que c'était peut-être un peu moi ce que je me suis posé comme question par rapport à ça, c'est jusqu'à quel point on peut remettre tout en question, jusqu'à quel point on peut aller vers un espèce de relativisme un peu dangereux, et comment finalement faire en sorte que notre discours soit pas contre-productif et ne conforte pas la paranoïa de certains jeunes face aux informations, etc. Enfin, voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, ma question.
Mais... Quelqu'un d'autre avait la main levée. Est-ce que vous permettez que je donne la parole à Valérie Marchand qui voulait réagir à ça? Je ne sais pas qui avait la main levée.
Moi, j'ai juste un petit début de réponse. C'est que depuis très longtemps, je propose aux collégiens un atelier autour de la presse papier. Je continue de le proposer. On fait des comparaisons de une de journaux, ce qui permet aux élèves de découvrir que l'information n'est pas neutre, que derrière l'information, il y a toujours une ligne éditoriale qui est très teintée idéologiquement. Et donc, je pense que la réponse, elle est dans la formation de l'esprit critique. Là, je crois que l'école a vraiment un rôle à jouer par rapport à ça et qu'elle ne doit pas se priver d'utiliser des outils plus anciens qui sont la presse papier et qui ne sont pas encore tout à fait tombés en désuétude pour montrer que la parole journalistique, elle est quand même rarement tout à fait neutre.
En atelier, on parle de subjectivité honnête, voilà, plus que d'objectivité, reconnaître qu'on a des filtres d'interprétation de chaque fait, de tout, enfin, tout ce qu'on observe, mais assumer ça plutôt que de se donner l'illusion et tenter de donner l'illusion aux autres qu'on est objectif. Il y avait une dernière personne qui souhaitait intervenir, et après il faudra qu'on arrête, je suis désolée.
Oui, bonjour, c'est juste pour vous apporter un angle de vue un peu différent de ce que je viens d'entendre toute la matinée, c'est-à-dire que les jeunes dont on parle et les offres que vous proposez, aussi variées soient-elles, arrivent à un moment donné dans la biographie ou dans le cycle de vie d'un jeune, à partir du moment où il a accès à une offre de lecture publique ou une offre éducative en milieu urbain, périurbain ou universitaire. Je vous parle du point de vue des jeunes qui sont sur des zones blanches où il n'y a pas de bibliothèque publique en milieu rural. Donc je m'adresse également, je sais qu'il y a des collègues de bibliothèque départementale dans la salle. Donc nous avons affaire sur nos territoires à des espaces géographiques, sociaux, où l'accès à une bibliothèque publique, à un professionnel de la lecture publique, va devoir attendre un certain nombre d'années avant de pouvoir se faire, et qu'effectivement, sans parler de, on va dire, de l'enjeu du fait que des bibliothèques de proximité en milieu rural sont ici la plupart du temps animées par des bénévoles, quoi qu'on puisse en penser, c'est notre réalité. Je voulais donc simplement prononcer le mot de territoire. Et puisque ici se joue vraiment l'enjeu d'une nécessaire alliance entre vraiment des, comment dire, un creuset partenarial dans son périmètre qui serait bien sûr à adapter à des réalités géographiques, sociales très différentes, mais qui me semble absolument indispensable puisque seule la bibliothèque n'y arrivera pas, seule l'éducation nationale n'y arrivera pas et seul le tissu associatif n'y arrivera pas non plus.
Merci beaucoup. Merci à vous tous. Vous aurez le temps de vous rencontrer si vous avez d'autres choses à échanger entre vous. Désolée d'avoir été un peu pressée sur la fin. Très bonne journée à vous. Au revoir.
Donc, ouais.